Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Nous sommes partis, ça y est, déjà, nous sommes dans un petit pays, mais à l'histoire immense. Un pays intense en paysages, en traditions, en histoire, en architecture, en personnages. L'Autriche est bien plus incroyable que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, avec nous au téléphone, Hélène de Lauzin, elle est spécialiste de l'histoire de l'Autriche, présidente du Bal des Parisiennes. Quelle jolie fonction, le Bal viennois de Paris. C'est la personne qu'il nous faut. Bonjour Hélène.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bah très bien, on est heureux de parler de l'Autriche. Ça nous a mis en forme. Bah,
c'est un plaisir partagé.
Pour commencer Hélène, est-ce que vous avez beaucoup dansé à Vienne ?
Ah bah évidemment que j'ai dansé à Vienne. J'ai dansé à Vienne et j'ai dansé à Paris. Si on y va, c'est pour danser. Je vous attendais tout à l'heure dire qu'il faut absolument danser la valse. Alors évidemment, c'est le lieu privilégié pour le faire, mais comme vous l'avez très bien dit, dans un bal viennois, on danse de tout. Et c'est ça qui est très sympathique et qui crée cette ambiance si particulière qui attire autant de monde.
Ouais, et on peut s'amuser même si on danse bien rien.
Exactement. Non, mais tout à fait.
Mal,
on s'amuse. Le spectacle est dans la salle, si vous voulez. Ouais. Donc, et puis vous avez, c'est le génie viennois et vous l'avez très bien résumé tout à l'heure. Cette histoire de quadrille, c'est quand même quelque chose de complètement fou.
Ouais.
Et quand on l'a vécu, c'est un moyen extraordinaire pour briser la glace. Et c'est vrai que bah, le quadrille, on peut s'imaginer quelque chose d'assez pompeux, très cérémonial, on fait des petits tours, etc. Et comme c'est appris sur le tas, ça se transforme en une gigantesque partie de rigolade et ça met tout le monde à l'aise. Ça, ouais. C'est très efficace dans le cérémonial viennois.
Et tout à fait. Et moi, je trouve que ça raconte beaucoup du caractère autrichien. C'est-à-dire qu'à la fois, on aime la tradition, une certaine forme d'élégance, de rigueur, mais derrière, il y a de l'humour et quelque chose qui fait qu'on ne se prend pas si au sérieux que ça.
C'est exactement ça, et c'est d'ailleurs, quand on connaît un peu les Autrichiens, ce qui fait leur charme, un Autrichien, c'est à coutume de se différencier de l'Allemand par son sens de l'humour, justement, ouais. Sa capacité à faire des blagues, à ne pas se prendre au sérieux. Et bon, y a un fameux dicton qui court, qu'on retrouve cité à plusieurs reprises, est-ce que c'est une anecdote authentique ou pas. Mais en politique, par exemple, les Allemands disent « la situation est sérieuse, mais pas désespérée ». Et les Autrichiens vous répondront « Non, elle est désespérée, mais elle n'est pas sérieuse. » Et c'est vraiment ça, c'est l'esprit autrichien. Même quand on est au bord du gouffre, même quand ça va mal, on trouve toujours moyen de rebondir au son d'une valse ou avec un bon verre de vin blanc pétillant à la main. Et c'est cet humour qu'on apprécie quand on va là-bas.
Et c'est un truc qu'on ne sait pas trop en France. Les Autrichiens sont marrants, c'est vrai.
Autrichiens sont marrants, exactement, ouais. Tout à fait. Alors c'est vrai que en fait le problème c'est qu'on pense allemand, on pense Allemagne. Alors forcément, je vais pas vous faire toute la ribambelle des clichés qui courent sur l'Allemagne, mais qui ont parfois quand même un petit fond de vérité quand même.
Oui,
on se dit ouais, c'est des gens très sérieux, austères, ils respectent énormément les règles, ils sont très carrés, etc. Et c'est vrai qu'on se dit du coup l'Autriche, bon, c'est un peu comme l'Allemagne, d'ailleurs c'est la même langue, et on s'imagine que c'est pareil. Eh bien pas du tout.
Moi je dirais qu'en fait l'Autriche c'est un petit peu les Autrichiens, c'est les Italiens de l'Europe centrale.
Exactement,
côté
c'est des gens du Sud.
Ouais.
Tout à fait, c'est des gens du Sud et c'est vrai que l'Allemagne c'est le Nord, c'est la bière, c'est le froid. L'Autriche c'est le Sud, c'est un peu plus de soleil quand même, c'est le vin aussi. En fait, tout simplement, c'est une question historique. En fait, l'Autriche fait partie d'une partie de l'Europe qui a été colonisée par les Romains.
Ouais.
Donc c'est l'Empire romain. L'Allemagne, c'est pas le cas. Il y a vraiment une limite entre la zone romanisée et la zone non romanisée.
Ah, ouais.
Et en fait, ça va chercher très très loin dans les racines du pays. Mais il y a vraiment une différence entre Vienne et Berlin, entre l'Autriche et l'Allemagne, entre un pays de bière et un pays de vin, etc.
D'accord.
Ça change la mentalité.
Je présente toutes mes excuses à nos amis allemands qui viennent de s'en prendre pour leur drague.
On fera bien une émission sur eux quand même, Philippe.
Ils le rendent bien aux Autrichiens, parce que la guerre entre l'Autriche et l'Allemagne, c'est quand même un grand classique. Donc, un point partout, on va dire.
Alors, la tradition en Autriche, c'est très important. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était un moyen pour les jeunes comme pour les anciens de garder un lien, parce qu'on se transmet les traditions de génération en génération. Les jeunes Autrichiens adorent la tradition. Moi, j'ai vécu un carnaval assez incroyable, qui est le carnaval des Ventrus. Je ne sais pas si vous connaissez.
Je n'ai jamais eu de réputation, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer.
Ben, c'est un truc complètement fou où vous avez des gros bonhommes rembourrés à la paille avec un ventre énorme. Ils se baladent dans les rues d'une ville qui s'appelle Aksam, et c'est pas très loin d'Innsbruck, je crois. Et les spectateurs qui sont le long des rues ont le droit de les attaquer pour les mettre au sol.
Et, ah oui,
et ils ont le dent.
Ça doit être à mourir de rire.
Et ils ont le dos blanc, c'est habillé en blanc. Et il faut qu'ils tombent sur le ventre. Si jamais ils tombent, s'ils sont sales dans le dos, ça veut dire qu'ils sont tombés sur le dos, ils ont perdu.
C'est témoin, c'est ça. Voilà. Excellent.
et tout le monde participe, les jeunes, les anciens. Et ça crée du lien entre les générations. Et c'est assez formidable.
Ben, c'est vrai que moi, j'ai séjourné à plusieurs reprises dans des familles autrichiennes et j'étais frappée de voir que des collégiens, des lycéens sont complètement là-dedans. Ils ne disent pas ça sur le mode de la contrainte. On parlait de la valse tout à l'heure, mais il y a des cours de valse à l'école. Dans un certain nombre d'écoles, c'est même obligatoire. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'avais une correspondante qui apprenait la valse à l'école.
Attendez, vous dites que la valse est obligatoire à l'école?
Alors, je dirais pas dans toutes les écoles, mais dans certaines écoles, oui, ça fait partie du programme.
Eh ben voilà, voyez Philippe, si vous aviez commencé plus tôt, on n'en serait pas là.
En Autriche, au jardin d'enfants déjà.
Et c'est marrant parce que du coup, c'est vrai qu'ils baignent là-dedans très tôt et en fait, ça fait partie de leur quotidien, ouais. C'est très clair.
Ah, il y a une autre tradition que j'aime beaucoup à Vienne, c'est la tradition du café viennois. Et là encore, on mélange le rétro, l'ancien et le moderne. Les cafés viennois, c'est des endroits où tout le monde va, les jeunes, les anciens, c'est pareil, où on va bosser, où on va rencontrer des amis, en même temps dans un cadre un peu old school et c'est très beau en plus.
Ils sont magnifiques, les cafés viennois. Et puis, il y a tous les styles. Il y en a qui ont vraiment... le café central, qui est un des plus connus, avec ses magnifiques voûtes. Qui sont vraiment le Sperle aussi, avec des très belles boiseries, etc. Il y en a des qui sont plus informels. Moi, par exemple, j'ai un petit faible à Vienne pour le café Avelka, qui est vraiment un café d'artiste. Quand vous rentrez, vous avez des superbes affiches au mur de toutes les expos, tous les concerts qui sont là. Vous avez toujours des gens qui sont en train de griffonner sur un carnet, sur un coin de table. Et ce qui est génial aussi dans le café viennois, c'est que vous pouvez y rester longtemps. Mmh. On ne vient pas vous asticoter toutes les deux minutes.
Mmh. Avec l'addition.
Sans comparaison chose, avec le pays.
Je ne cite personne, je ne dis personne.
On a tous compris.
Voilà. Et c'est vrai que ce café viennois, c'est un pur moment de délice parce que bon, les produits sont bons quand même, généralement, et on peut prendre son temps. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de cette qualité de vie qu'on aime en Autriche.
Ouais, et ça, le seul petit inconvénient, c'est que c'est tellement chouette et on peut tellement y passer de temps qu'il faut parfois faire la queue pour y entrer. Parce qu'évidemment,
ça, les gens restent.
Et puis, il y en a certains qui sont un peu plus touristiques, effectivement, comme le café Sperle ou le café Central. Et là, il vaut mieux y aller hors saison, on va dire.
Ouais. Et puis, Vienne, comme j'ai dû dire une phrase, c'est que c'est une ville splendide. Ouais. C'est vraiment une succession de palais, de demeures magnifiques. C'est un véritable musée à ciel ouvert.
Ah, c'est une ville magnifique et qui a des points communs avec Paris dans ce côté vraiment grande capitale, grandes avenues. Et petit quartier plus intimiste, et on passe de l'un à l'autre, et ça a énormément de charme. Ça peut paraître cliché, mais j'assume, si on peut faire une promenade en calèche à Vienne, c'est quand même super sympa, parce que le fait de déambuler dans les rues et de voir tous ces monuments à la hauteur à laquelle ils ont été conçus, ils n'ont pas été conçus pour être vus depuis l'automobile, mais depuis le cheval, vous avez des perspectives quand vous circulez en calèche autour de la Haute-Bourg, autour des palais impériaux, etc., c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Vous l'avez vu comment, vous, Jean-Bernard Vienne ?
Moi, je n'étais pas en calèche. J'ai beaucoup passé de temps dans ces fameux cafés historiques parce que j'adore l'ambiance et on est transporté au 19e siècle.
Ouais, c'est formidable. Vous restez avec nous, Hélène Delezin. Dans un tout petit instant, on continue à explorer avec vous et avec votre passion pour ce pays, l'Autriche. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Nous sommes en Autriche, comme chaque jour entre 11h et midi sur Europe 1, un voyage. Et nous sommes en ligne avec Hélène Delezin, qui est historienne et spécialiste de l'Autriche. Alors, ce qu'il y a de fascinant dans ce pays, c'est qu'on a toujours l'impression d'être comme dans un film, comme dans un décor de cinéma. Il y a par exemple une bourgade qui s'appelle Hallstatt, qui est une petite bourgade adorable, blottie dans les Alpes, entre lacs et montagnes. En Asie, les touristes l'ont nommée la plus instagrammable du monde, la ville la plus instagrammable du monde.
Bon, c'est pas forcément une qualité, là, remarquez.
Non, mais il se passe quelque chose, il y a un côté décor féerie. Cette petite ville, d'ailleurs, a été aussi le modèle d'une ville dans le dessin animé de La Reine des Neiges, de Disney. Et puis, c'est le monde de Sissi, c'est le monde de la Mélodie du Bonheur. C'est étonnant, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça.
C'est vrai que l'Autriche a l'énorme avantage d'être énormément préservée à deux niveaux, aussi bien sur le plan du patrimoine que sur le plan des paysages naturels. Et c'est vrai que ça fait un cocktail détonnant, très beau paysage avec des montagnes vertigineuses derrière, etc. Et franchement, ça contribue à son charme. Et c'est vrai que le cinéma a su exploiter cette fibre. Vous prenez La Mélodie du Bonheur, par exemple, c'est presque un clip de l'Office du tourisme de Salzbourg, parce que vous avez des magnifiques prises de vue sur les monuments, sur les montagnes tout autour. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on a envie d'aller voir ça sur place, c'est efficace.
Bien sûr. Et puis alors, on pense à Sissi. Est-ce qu'il y a une fascination pour Sissi en Autriche ?
Le mythe n'est pas mort, ça c'est le moins qu'on puisse dire. À Vienne, vous ne pouvez pas faire deux pas sans tomber sur des évocations de Sissi. Alors évidemment, Sissi, c'est, en termes touristiques, c'est extrêmement efficace. Vous avez les cartes postales, les crayons, les magnettes, les boules à neige. Vous achetez du Sissi absolument dans toutes les quantités. Bon, c'est vrai que le mythe ne faiblit pas. Le personnage reste fascinant. Et ça se transmet de génération en génération.
Est-ce qu'on peut dire en deux mots, pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce qu'on peut dire en rappeler en deux mots qui était Sissi exactement ?
Alors Sissi, c'est la femme de l'avant-dernier empereur d'Autriche, François-Joseph, qui a été elle-même impératrice d'Autriche, de son mariage jusqu'à son assassinat. Et donc, pourquoi elle est connue ? Parce que déjà, c'était une femme d'une beauté extraordinaire, avec une chevelure magnifique, qui a été immortalisée dans des très célèbres portraits de cour, avec sa grande chevelure. Il y en a un notamment qui est très connu, où elle porte des étoiles en diamant dans sa chevelure. Alors, on parlait d'Instagram tout à l'heure, elle avait tout compris à la communication, Elisabeth d'Autriche, ici, parce qu'à partir d'un certain âge, elle a interdit qu'on la prenne en photo ou qu'on la représente en peinture. C'est ce qui fait qu'elle est restée, en fait, dans les imaginaires, l'éternellement, la princesse éternellement jeune. Et ça contribue évidemment au mythe, parce qu'on a tous en tête une image de la belle Sissi. Alors évidemment, elle est connue aussi grâce à la trilogie de films avec Romy Schneider, ouais. qui l'a incarnée de façon extrêmement vivante. Maintenant, c'est vrai que le film la présente sous un jour très sympathique, avec une belle histoire d'amour, etc. La réalité historique est un peu plus cruelle. Ce n'a pas été un mariage heureux, elle a beaucoup souffert. Elle n'a pas toujours été là au moment où son rôle d'impératrice l'aurait exigé. Bref, c'est une histoire un peu plus tragique, ouais, que le film qu'on a tous en tête.
Alors, il y a une autre question qui me brûle les lèvres à propos de l'Autriche, c'est les grands compositeurs. Mozart, Johann Strauss, Schubert, Beethoven, il est né à Bonn, mais il est mort à Vienne. Pourquoi tant d'immenses compositeurs sont nés ou ont un lien aussi fort avec l'Autriche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi autant de génies dans un pays ?
C'est vrai que c'est un mystère. Il y a vraiment quelque chose entre la musique et l'Autriche. Alors, il y a plusieurs facteurs pour moi. Déjà, c'est un pays où figurez-vous que les empereurs, les souverains, ont été des musiciens, ont été des compositeurs. Très tôt, vous avez vous imaginez Louis XIV, on dit que c'était un danseur, il compose de la musique, il compose des opéras, il compose des concertos, etc. Donc ça, ça joue. Et puis il y a aussi le fait, on pratique beaucoup en famille. On vous parlait de Schubert tout à l'heure, le papa lui fait de la musique, la maman fait de la musique, à la maison, les frères et sœurs, tout le monde fait de la musique. On joue entre nous, et du coup, il y a une culture musicale ambiante qui est extrêmement forte. Alors forcément, quand tout le monde fait de la musique, j'ai envie de dire, du haut en bas de l'échelle sociale, eh bien forcément, ça donne naissance à beaucoup de génies.
Ouais. C'est fascinant, hein. Les grands musiciens, l'Austrie et l'Autriche, c'est une histoire fascinante.
Mais il y a un gros business Mozart, quand même, non ?
Aujourd'hui ?
Ah oui ?
Qu'est-ce que vous appelez un business Mozart ?
Le gros business Mozart, je m'adressais en fait à notre invité, mais elle n'est pas là.
Alors le business Mozart, oui, c'est pas aussi efficace que le business Sissi.
Ah voilà.
Mais il y a quand même un business Mozart. Je pense notamment à la petite confiserie qu'on appelle.
Alors la boule Mozart, voilà.
La boule Mozart.
Je voulais en venir.
Elle est en Autriche.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Vous ne pouvez pas y couper. Donc c'est un petit chocolat qui est en forme d'une sorte de grosse bille en fait.
C'est du marzipan.
Qui est enveloppé dans un papier. Voilà, et exactement. Il y a du marzipan, comme on dit en allemand.
Du marzipan en français.
Du marzipan avec de l'amande à l'intérieur, enrobé de chocolat au lait.
Voilà.
Et alors, ça, vous en trouvez de partout.
Ah oui, mais il y a 2 500 000 boules Mozart chaque année quand même qui sont produites. Donc vous pouvez ramener des boules Mozart. Mais
c'est une friandise.
Oui.
Ah, une boule
Mozart. Et alors je ne sais pas si vous savez, il y a aussi la déclinaison qui existe en Mozart Thaler, donc c'est le même mais à plat. En fait, c'est la pièce de monnaie mais avec la tête de Mozart dessus.
Oh là là. Oui.
Le pauvre Mozart, il doit se retourner dans sa tombe.
Il y a quelque chose de frappant quand on se balade en Autriche et qu'on parle avec les Autrichiens, c'est qu'il y a une vraie fierté autrichienne. Alors que si on regarde sur une carte, c'est un petit pays. Hein. J'espère que les Autrichiens ne m'en voudront pas, mais c'est pas un pays majeur géographiquement. D'où vient cette fierté ?
Alors, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on associe l'Autriche à un petit pays. Il faut quand même se rappeler que au moment où la Première Guerre mondiale éclate, c'est la 5e puissance européenne, et donc quasiment mondiale, puisque effectivement l'Europe domine à bien des égards les relations internationales. Au moment où la guerre éclate, l'Autriche est à la tête d'un empire de 51 millions d'habitants. Donc c'est énorme, en fait. Et c'est pour ça que les Autrichiens, aujourd'hui, même si c'est une toute petite république avec quelques millions d'habitants, 83 000 km², donc c'est microscopique, ils ont quand même le souvenir qu'ils ont été... partie d'un empire qui a vécu quasiment 1000 ans et qui a dominé l'Europe. La maison d'Autriche, c'est quelque chose d'énorme. Vous avez plein de reines françaises qui ont été autrichiennes. Vous avez... et évidemment, tout ça, tout ce legs historique, ça laisse des traces. Donc même si c'est une petite république, les Autrichiens ont quand même conscience qu'il y a tout ça derrière eux. Donc c'est pas la Suisse, si je puis dire, même si j'aime beaucoup la Suisse. Qui a aussi des points communs avec sa civilisation alpine, le ski, etc. La Suisse a toujours été un petit pays géopolitiquement parlant, si je peux dire. L'Autriche, ça a été quelque chose de colossal. Et ça, forcément, les Autrichiens, aujourd'hui, ils ont toujours ça en tête.
Hélène de Lausanne, on vous écouterait pendant des heures hein, parler de l'Autriche, vous êtes passionnante. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu de votre savoir et de votre amour immense pour l'Autriche. Je rappelle que vous avez sorti un livre passionnant qui s'appelle « Histoire de l'Autriche » aux éditions Perrin et que vous êtes aussi amateur de valse viennoise, amatrice de valse viennoise et que vous êtes la présidente du Bal des Parisiennes. Merci beaucoup Hélène.
Merci beaucoup Philippe et merci à toute l'équipe.
Au revoir.
À la prochaine, j'espère.
Au revoir.